La vie culturelle locale avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Cet été jusqu'au 1er novembre, le FIAA, le Fonds international d'art actuel, accueille une nouvelle exposition consacrée à l'œuvre de l'artiste islandais Eero. Des peintures et collages riches et complexes, des images piochées dans de nombreux supports et agencées par le regard de l'artiste. De quoi nous parle l'œuvre composite d'Eero et que peut-on découvrir dans cette exposition? On en parle avec Claire Aymon, chargée des publics pour le Fonds international d'art actuel. Bonjour Claire Aymon.
Bonjour.
Alors d'abord, dans un premier temps, rappelons peut-être le rôle du FIAA, donc Fonds international d'art actuel. Qu'est-ce qu'on entend en fait quand on parle d'art actuel?
L'art actuel, ça va englober beaucoup de choses. C'est un petit peu différent de art contemporain. Ça peut faire un peu moins peur. Voilà, on ne va pas avoir d'œuvres très conceptuelles. On va être plus sur des œuvres plastiques. Donc principalement pour nous, de la peinture, de la sculpture, ce genre de choses.
Et donc l'œuvre d'Eero, est-ce qu'elle rentre pleinement dans cette catégorie d'art actuel?
Oui, alors Eero, c'est une figure assez importante. Hein. C'est quelqu'un qui travaille depuis les années 70 en France, qui a fait partie du mouvement de la figuration narrative, qui est un petit peu le pop art français, voilà, pour un petit peu mettre dans une case. Et il fait tout à fait partie de ça, parce que c'est quelqu'un qui va se servir de choses qui existent déjà pour en faire de nouvelles œuvres, en collage, en peinture principalement.
Donc au FIA, l'exposition se concentre sur les 10 dernières années. Comment elle se caractérise, cette période de l'œuvre d'Eero?
Alors, les 10 dernières années sont un peu différentes de ce qu'il a pu faire avant. On retrouve bien sûr sa signature, c'est-à-dire tout ce qui va être comics, Marvel, américain, qu'on va retrouver presque à chaque fois, mais aussi des figures un peu plus manga, kawaii, qui vont venir alimenter son catalogue, puisque c'est quelqu'un en fait qui travaille toujours malgré son âge, hein, 94 ans, qui va piocher dans des journaux, des magazines, des livres, enfin vraiment énormément de supports, découper, faire des petits rangements par thématique, par couleur, et ensuite faire des mangas, enfin faire des mangas, pardon, faire des collages, et ces collages sont transformés, si ça lui convient, en peinture. Donc on retrouve toujours en fait des choses contemporaines.
Mais donc il passe d'abord par le collage, ouais. Et ensuite il peint le collage qu'il a réalisé. En fait.
Alors à l'époque il peignait, aujourd'hui il ne peint plus, hein, mais à cause de son grand âge, il a des assistants, hein, comme ça se fait beaucoup pour ces artistes-là. Mais oui, c'est toujours des collages. Et à partir de collages, il va en faire des peintures. Et parfois il va en faire des aquagravures, qui est une technique aussi assez particulière. Et puis parfois des estampes, etc. Donc c'est vraiment un gros oui, travail.
Effectivement, l'expo présente aussi donc, des aquagravures, oui. Mais aussi des digigraphies. Qu'est-ce que c'est? C'est moins connu comme technique.
Ouais, digigraphie, c'est de l'impression. Voilà, c'est, on va faire des prints maintenant, tout ce qui va être impression sur papier. Lui va faire aussi des digigraphies sur toile, qui va ensuite rehausser à la main, ce qui en fait quand même des œuvres uniques. Unique dans leur genre. Et l'aquagravure, alors ça c'est une technique assez peu répandue, elle a été inventée à Montreuil avec l'artiste Bernard Prat, où c'est l'idée en fait comme de la linogravure, on va aller graver une matière, une cire le plus souvent, et ensuite on va énormément détremper un papier très épais qu'on va venir aplatir à l'aide d'une presse, hein. Et donc le papier va rentrer dans les trous et va faire ressortir le dessin en relief.
Et donc pour ces collages, vous disiez qu'il allait chercher sa matière dans des catalogues, des bandes dessinées. Qu'est-ce qui peut servir de source pour Eero?
Tout, ça peut être de la publicité qu'il va recevoir, à des catalogues de livres d'art, à des œuvres d'art classiques aussi, parce qu'il travaille aussi beaucoup, alors il a ses petits, on va dire, ses petits bébés avec tout ce qui va être Pablo Picasso, Fernand Léger, qui vont revenir assez souvent. On peut retrouver aussi du Raphaël ou même des artistes contemporains.
Oui, parce que c'est vrai qu'on voit aussi bien oui, de la bande dessinée, de la pop culture, mais aussi de l'art classique. Toute production culturelle, quelle qu'elle soit, est susceptible de servir dans une œuvre d'Eero. On rappelle aussi qu'Eero a d'abord fréquenté les surréalistes. Est-ce que c'est quelque chose qui se retrouve dans son travail?
Alors, c'est quand il était très jeune, en fait, à la base. Donc, il a une formation plutôt classique. Il a fait plusieurs écoles d'art européennes et du Nord principalement. Il va rencontrer donc, les surréalistes, André Breton particulièrement. Et il va partir du principe que tout a déjà été peint, dessiné, filmé, photographié et que du coup, ça vaut pas le coup de refaire des choses qui existent déjà. Et en partant de ce postulat et en allant aussi aux États-Unis, il va découvrir Andy Warhol, il va revenir avec sa méthodologie qu'il applique dès lors, c'est-à-dire de récupérer ce qui existe et d'en faire autre chose.
L'idée que tout a été peint, tout a été fait, est-ce que ça se rapproche aussi de la démarche de Deschamps, non, Duchamp,
Marcel Duchamp, Duchamp. Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, c'est assez différent. On n'est pas dans le même le ready-made, on peut dire ça. Enfin, pour le ready-made, voilà, ça peut fonctionner, mais après c'est totalement différent. Je pense que Eero quand même gardait une idée d'esthétique du dessin. C'est quelqu'un qui aime les formes, qui aime les couleurs et qui veut quand même garder une matière assez propre, contrairement à Duchamp qui avec le temps est allé vers qu'on appelle l'ancêtre de l'art conceptuel.
Et donc on reprécise, hein, Duchamp et les ready-made, donc c'est des objets qu'il prend tels quels et qui deviennent des œuvres d'art. De quoi parle Hérault, en fait, à travers ces assemblages de références culturelles? Est-ce qu'on va entrevoir quand même un discours sur le monde?
Alors oui, il y a un discours. Alors après, il reste assez réservé, hein, sur ce qu'il va en dire lui. Hein. On est un petit peu, en tant que spectateur, obligé de se faire une idée. Mais on va avoir une œuvre, par exemple, là, qui en ce moment, qui représente Trump, un drapeau américain et le cri d'Edward Munch. Bon, voilà. C'est quand même assez politique.
C'est assez clair.
Voilà, faut savoir qu'il a été connu aussi grâce à des œuvres politiques comme American... Ah, j'ai oublié. Je ne sais plus le nom, mais voilà. Une œuvre, en fait, où c'est un salon américain et derrière, on voit des Indiens d'Amérique derrière les vitres. Voilà, il est quand même assez engagé. La figuration narrative en France étant assez engagée aussi de base.
Voilà. Et est-ce qu'Hérault se considère autant comme un artiste que comme... un documentaliste, un archiviste de l'époque, ou c'est pas vraiment sa démarche?
Alors là, je pourrais pas vous dire, parce que comme je disais, c'est quelqu'un qui reste assez discret, hein, qui parle pas beaucoup. Après, je pense que oui, on peut voir ses œuvres comme un peu une archive, parce qu'on suit quand même assez les époques facilement dans ses travaux, par rapport aux images qui nous ont accompagnés. Par exemple, il y a énormément d'images de la pop culture américaine, hein, dans son travail. Aujourd'hui, on retrouve plus la pop culture, on va dire, asiatique, japonaise, coréenne, ce qui correspond à l'époque d'aujourd'hui aussi. Donc effectivement, on suit quand même une ligne du temporel de ce qui se passe en ce moment dans le monde des images.
On disait tout à l'heure quand même que tout peut servir de matière pour Hérault, mais quand même, pour être un peu allé regarder ce qu'il fait, on remarque qu'il y a quand même une forte prédominance des dessins, des peintures, bref, des images fabriquées par l'homme plutôt que l'utilisation de photographies dans ces collages. Y a une volonté de parler de la réalité, mais de manière détournée, en passant toujours par l'image ou l'imaginaire?
Oui, alors là, dans ce qu'on a actuellement au centre, oui, après, il y a d'autres époques où il utilisait beaucoup la photographie aussi. Ça dépend des moments, mais là, effectivement, il reste sur la bande dessinée, je pense que c'est quand même son premier amour, donc il doit vraiment aimer ça, parce qu'il va reprendre des codes plus contemporains, mais des choses quand même, comme vous dites, très, très plastiques. Hein. Donc oui, effectivement, il a ce langage-là.
Et ce qui ressort finalement de ces collages très composites, c'est une sensation d'accumulation, de chaos aussi un peu pour le spectateur. Cette profusion d'images, est-ce qu'elle parle aussi quelque part de la modernité numérique, du fait qu'on est submergé par les images? Est-ce que c'est quelque chose qui le préoccupe?
Alors il a, pendant une période, commencé à travailler de manière plus informatique, mais ça ne lui a pas plu. Voilà, je pense que lui, il avait besoin de garder ce côté papier, de pouvoir toucher les œuvres. Mais effectivement, on est exactement dans le sujet d'aujourd'hui, d'ailleurs, dans les médiations qu'il peut y avoir avec des personnes libres ou des scolaires, ce qu'on en reçoit quand même pas mal. Cette question de l'afflux des images, de l'influence des images et du monde aujourd'hui, où c'est dur de rester concentré sur une chose, effectivement, parle à travers le travail d'Hérault de manière très, très simple, très claire.
Et est-ce que ces compositions ont une fonction caricaturale? Vous parliez de ce tableau avec Trump et le cri de Munch. Quelle place s'est donnée à l'humour chez Hérault?
Je pense qu'il y en a beaucoup. Il faut regarder les œuvres avec toujours un second degré. Parce que même sur des choses très graves, par exemple, on a une œuvre qui est l'affiche où on va retrouver Captain America et Wonder Woman au-dessus et en dessous Guernica. Voilà, c'est critique et humoristique toujours à la fois. Il y a toujours ce double sens dans beaucoup de ces œuvres qui fonctionnent comme ça.
En marge de l'exposition, le public est invité à participer à des ateliers. Donc là, c'est pour expérimenter la pratique du collage un peu?
Oui, alors les ateliers d'été, là, c'est vraiment sur le collage. Hein. L'idée, c'est de donner aux participants un maximum de corpus d'images et qu'ils essayent de créer aussi un message à travers du collage. Le collage, c'est quelque chose qui est assez facile et assez agréable parce qu'on a tout de suite un résultat assez fort et assez concret. Donc là, c'est vrai qu'on fait des ateliers les mercredis pour tout public. Voilà. Et puis après, il y a des ateliers toute l'année aussi sur les expos, pendant les vacances ou les week-ends.
Et pour visiter l'expo et participer aux ateliers, il faut réserver. Alors, où est-ce qu'on peut se rendre pour les infos pratiques et les réservations?
Alors, les infos pratiques, vous les retrouvez sur l'Instagram, hein, tout simplement, ou sur le site. Vous avez tout indiqué. Pour vous inscrire, il faut bien penser à réserver les ateliers et les visites guidées. Là, c'est une manière pour nous de s'organiser, parce qu'on est une petite équipe. Et après, vous avez toutes les infos des horaires. Mais en général, on a des horaires assez simples. C'est du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Je vous remercie Claire Raymond, chargée des publics pour le Fonds international d'art actuel. C'est à la Visitation au Mans et c'est gratuit tous les dimanches du mois d'août.
Exact.
Merci beaucoup.
La vie culturelle locale avec Charlie Pless sur Radio Alpa.